Chers auditeurs, auditrices et internautes de la Radio de la Paix, bienvenue à vous, vous qui venez à peine de nous prendre en cours de diffusion. Nous sommes très heureux d'aborder aujourd'hui un sujet qui vous intéresse, l'enseignement à l'ère numérique. Et nous abordons ces sujets avec un invité non des moindres. Je vais vous les présenter. Il est titulaire d'un doctorat en administration des affaires de l'université de Wuhan en Chine, spécialisé en marketing, analyse financière et questions environnementales. Professeur et chef des départements honoraires des gestions à l'université de Kinshasa. Il intervient également comme professeur visiteur dans plusieurs institutions dont l'université Nouveaux Horizons à Lubumbashi et Hautes Écoles de Liège. Il est passionné par l'enseignement. Il a formé de nombreux étudiants en commerce électronique, marketing digital, analyse financière et gestion commerciale. Actuellement, il est professeur ordinaire et il a légué à la postérité un précieux ouvrage à caractère pédagogique, Manuel d'analyse financière, un ouvrage que je vous recommande, ouvrage qui a été préfacé par le gouverneur de la Banque centrale, André Ouamesso. Nous recevons donc pour vous, chers auditeurs, le professeur et docteur Jody Ngongo Ngoy. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour, monsieur Jean-Marc, et merci beaucoup, content d'être avec vous ce matin.
Alors, l'enseignement à l'ère numérique, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, et surtout qu'on sait qu'avec la maladie à coronavirus, on a senti les limites de certaines choses et on a compris l'importance du numérique dans notre société, dans notre vie. Quand on parle du numérique dans notre pays, on voit aussi qu'il y a certaines limites. Par exemple, les taux de pénétration d'Internet qui n'est pas très élevé, mais il y a aussi les côtés logistiques de certaines universités et instituts supérieurs. L'enseignement à l'ère du numérique, comment on s'y prend en République démocratique du Congo?
D'abord, merci beaucoup. Justement, comme je disais, vous l'avez si bien épinglé. Effectivement, nous avons des défis, mais c'est des défis que nous devons affronter parce que nous ne pouvons pas dire le numérique est en route, le numérique dans nos écoles, dans nos universités, le numérique y est déjà. Le défi de l'Internet, le défi de la connexion, le défi de la vitesse de connexion, le défi du matériel. Une chose est de parler des défis, mais une autre est d'abord de savoir comment utiliser. J'ai vu, moi, des écoles, j'ai vu des instituts, j'ai vu ceux qui avaient les infrastructures, mais qui ne savent pas quoi en faire. Vous avez tout à l'heure relevé le cas du corona, de Covid que nous avons connu. Je ne voudrais pas parler en mal, mais dites-moi, honnêtement, vous avez l'Institut supérieur d'informatique l'ISIPA qui était fermé, qui était incapable, n'est-ce pas, d'enseigner, d'assurer des cours à distance, alors que c'est l'institution effectivement habilitée, n'est-ce pas, à enseigner, à former les informaticiens. Mais vous avez vu des universités comme Nouveaux Horizons, qui, n'est-ce pas, a pu garantir, n'est-ce pas, la continuité de l'enseignement, en assurant des enseignements en ligne à travers des classes virtuelles, et cela a donné lieu. Déjà, l'avantage, le bénéfice n'est pas simplement pour les étudiants, autant pour les enseignants, qui pouvaient continuer à être payés, et pour le personnel administratif, avoir ne serait-ce que 50% de leur salaire. Donc, vous voyez, le bénéfice, les activités ont continué et cela a permis à ce que nos étudiants ne deviennent pas bourriques ou n'entrent pas en chômage. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Donc il faudrait d'abord comprendre ce que le numérique nous apporte et comment en tirer profit.
Professeur, on doit dire que le numérique c'est un impératif, c'est pas question d'option.
Ah, Jean-Marc, vous l'aviez dit, c'est pas une option. Mais lorsque vous regardez l'environnement, beaucoup croient que c'est encore une option, on peut choisir. Non, finalement on va rester analphabète parce que vous allez remarquer qu'aujourd'hui, l'information est à bout de doigts. Ce n'est plus les méthodes d'enseignement, ce n'est plus le cours magistral que nous assurions il y a 20 ans, il y a 10, il y a 15 ans. Aujourd'hui, vous entrez dans l'auditoire, vous avez un étudiant qui a l'information. Vous entrez dans l'auditoire, vous pouvez aborder un sujet où un étudiant peut déjà vous contredire parce qu'il a l'information. Alors, comment s'y prendre? Et comment profiter? Je veux vous donner un autre exemple. Tout à l'heure, nous avions parlé de Covid, mais Covid a laissé quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, nous parlons du
télétravail.
Oui. Hein? Vous voyez? Et aujourd'hui, les études révèlent même que ceux qui sont en télétravail arrivent, n'est-ce pas, à performer.
Ils sont plus performants.
Plus performants que ceux qui sont dans les bureaux. Donc, il y a des éléments que nous devons récupérer. Voilà pourquoi il est un impératif, comme vous le dites, que nous, les enseignants, nous voyons les choses différemment. La manière dont nous allons former les étudiants et la manière dont nous allons enseigner, tout, il faut que cette mise à jour soit faite Et bien sûr, l'État de son côté, les universités de leur côté, les étudiants de leur côté, il y a toute une action globale qui devrait être en
place. Mais par où doit-on commencer, professeur Jodingo?
Moi, je pense, comme on dit toujours, il faudrait d'abord apprendre. Il faut la connaissance. Il faut d'abord comprendre c'est quoi le numérique. Et alors, tout le monde parle du numérique. Les définitions savantes, vous savez, moi, je les évite pour comprendre à tout le monde. Lorsque déjà vous et moi, nous utilisons le smartphone pour échanger les messages, pour chercher, faire une recherche en ligne, pour payer avec M-Pesa ou Orange Money ou RTL. Je ne sais pas moi, RTL. Lorsque nous entrons dans une bibliothèque, nous cherchons un article, nous voulons écouter Radio Okapi. Mais c'est tout cela le numérique, n'est-ce pas? C'est justement les technologies qui nous permettent de transformer un texte, de le stocker et de les échanger, n'est-ce pas, via tout ce qui est outils électroniques, que ce soit les smartphones, que ce soit les ordinateurs, que ce soit tout autre matériel électronique. C'est ça le numérique.
Donc le numérique est au carrefour de tout ce qui se fait sous le soleil.
Au carrefour de tout ce qui se fait au soleil. Alors, vous voyez, vous avez la possibilité avec le numérique, et d'ailleurs, moi je dis que c'est une chance pour la RDC, une opportunité que nous devons saisir. Parce que l'enseignement via le numérique peut donner, peut réduire les inégalités. L'étudiant qui est à Guémena ou qui est à Calémi peut avoir accès à une qualité de matière qui vient de n'importe où. Moi qui suis enseignant à Kinshasa, je peux être en mesure, je me dis ok, je suis un professeur ordinaire, je n'irai pas à Guémena, mais je peux assurer les enseignements à Guémena, je peux assurer les enseignements à Calémi. Ça, c'est déjà cette possibilité que nous donne le numérique. Bien sûr, va s'en suivre, voir comment nous allons procéder.
Il y a la question des connectivités, la pénétration, l'internet.
Ça, c'est cela. Nous qui allons de temps en temps en province, vous remarquez qu'aujourd'hui, si vous êtes devant un auditoire, je peux dire qu'on peut atteindre 80% des étudiants qui ont un smartphone. Je parle pas seulement de téléphone, qui a un smartphone. Maintenant, en termes de connectivité, mon cher Jean-Marc, ce que nous oublions, c'est que les choses évoluent très rapidement. Aujourd'hui, vous avez avec Starlink, qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir une connectivité partout. On se dirait, nous sommes encore en retard pour faire passer la fibre optique et tout. Mais avec Starlink, aujourd'hui, nous promenons avec Starlink, n'importe où vous vous trouvez, n'est-ce pas, donc, quelle que soit la brousse où vous allez être jeté, vous êtes en mesure d'être connecté. Et cela vous donne la possibilité, n'est-ce pas, d'accéder. Et ce que nous demandons, ce n'est pas la connectivité instantanée. Parce que aujourd'hui, avec le numérique, je peux enregistrer un cours. Je peux enregistrer un cours et le regarder ou y accéder à tout moment que tu en aies besoin. Ce qui est également magnifique, c'est-à-dire dans les centres de formation, dans les universités où nous recevons un professeur visiteur, un professeur d'une renommée internationale qui vient pour une conférence, qui vient pour un séminaire, qui vient pour un travail spécial dans un laboratoire. Avec le numérique, nous sommes en mesure déjà de lui donner accès à travers toute la République, mais qui nous avons également la possibilité de retenir ses formations et de chaque fois que nous en avons besoin de faire repasser, d'organiser une autre formation avec ce professeur parce que nous aurons déjà, n'est-ce pas, stocké l'information. Alors vous voyez, tous ces avantages-là, c'est à nous maintenant de savoir comment les utiliser. Or, aujourd'hui, vous avez des universités qui considèrent que le numérique est un danger. Vous
alors que ça rend d'énormes services.
Vous avez beaucoup de professeurs qui ont peur du numérique. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous devons nous mettre à jour. Parce que, comme je le disais, vous risquez d'être analphabète. Je vais donner mon exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé du cas de l'Université des enseignements en ligne. Vous avez aujourd'hui, avec tout le problème que nous avons du transport, avec, je suis coordonnateur, n'est-ce pas, d'une structure de formation pour le deuxième et troisième cycle à l'Université de Kinshasa qui s'appelle Gestion de la politique économique. Et ça a été mis en place pour le renforcement de capacités. Et donc, nous organisons les enseignements pour la plupart avec non seulement des professeurs qui ont une très grande expérience, mais aussi avec toutes ces personnes qui peuvent partager de leur expérience. Donc, même s'ils n'ont pas un diplôme de doctorat, nous les faisons venir pour des séminaires, pour des discussions et pour un transfert de technologie et de connaissances. Mais ça veut dire que tous nos étudiants sont pour la plupart des travailleurs. Aujourd'hui, nous assurions, il y a quelques années, une très bonne formation parce que on organisait le programme après les heures de travail, ils peuvent monter au campus. Mais dites-moi aujourd'hui, vous allez traverser le centre-ville
pour avec tous les bouchons campus, qu'il y a dans la bouchons. Ville.
Alors, la solution que nous avions prise, c'est justement de mettre un module en ligne. Et vous avez, n'est-ce pas, des jeunes très doués qui ont su le faire. Mon ami à côté ici, Riche, nous avons mis en place, et encore une fois, il se souviendra que j'en étais l'initiateur, bien sûr, avec le directeur, le professeur Tungila, Floribert Tungila, que vous avez déjà reçu également ici.
Oui.
Et nous avons mis en place un système qui permet à l'enseignant, au même moment, en fait, c'est ce que nous appelons un système hybride.
Ok.
Il enseigne en présentiel et la matière est en lien, est envoyée à tous les étudiants, à tous les apprenants, où qu'ils soient, et ils arrivent à nous suivre à distance. Et voilà comment nous avons pu organiser les enseignements pour la 9e, pour la 10e promotion. Donc, voyez comment...
Donc, c'est possible.
C'est possible. Moi, je commence à l'utiliser très régulièrement. Je sais que certains collègues, de temps en temps, critiquent, mais je pense que ils devraient comprendre et nous devons travailler pour formaliser les choses. C'est ce qui explique même que vous avez remarqué que je mets en place aujourd'hui des plateformes parce que la connaissance existe. Nos étudiants possèdent l'outil, mais vous allez remarquer, ils sont plus orientés dans les divertissements parce que justement, nous n'avons pas mis en place des structures.
Mais comment renverser les tendances, professeur?
Justement, il faut renverser les tendances. Alors, ici, j'ai compris que c'est possible de renverser les tendances. Vous voyez, lorsque l'enseignement, le pouvoir public a demandé aux professeurs de ne plus vendre les syllabus. Bon, parce que le commerce également l'emportait sur l'enseignement proprement dit. Mais il s'est posé un problème, c'est-à-dire seul l'ouvrage devait être vendu. Mais bon, nous mettons en place l'ouvrage, $20, $25, $30, l'étudiant dit « j'ai pas de revenus ». Qu'est-ce que nous allons faire? Alors que nous avons adopté le système LMD qui exige à ce que l'étudiant ait accès dans les laboratoires, qui soit plus pratique. Alors vous remarquez que c'est un danger. Qu'est-ce que j'ai fait? De par une observation, n'est-ce pas? Parce que comme nous disons, toute formation déforme. De par ma formation également des marketeurs, cette observation du terrain m'a permis de comprendre que il faut aller où l'on trouve ces étudiants. TikTok, YouTube, Facebook. Nous créons des pages, mais en leur donnant du contenu scientifique.
Une bonne stratégie.
Et ce contenu, on pensait que ça ne marcherait pas. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lancé le compte Monsieur le Professeur, le compte du savoir. Mais pour la première vidéo, nous sommes déjà à 10 cas. Alors, en moins d'un mois, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Il faudrait maintenant, à notre niveau, parce que vous n'allez pas enseigner de la même façon que vous le faites en présentiel ou en ligne. Il faudrait trouver justement comment attirer. Il faudrait que nous apprenions comment rendre les cours intéressants. Et c'est ainsi que vous allez voir. Aujourd'hui, il est très facile. Quelqu'un qui ne comprend pas un enseignement, il va chercher des tutos en ligne et il va s'abreuver et la connaissance va augmenter. Donc, nous devons le formaliser pour permettre déjà à nos étudiants d'avoir un accès direct sur les sites du savoir, sur les laboratoires qu'il faut, sur les bibliothèques qu'il faut, et leur donner ce goût. Alors en ce moment-là, ils éviteront tout ce qui est racaille, parce que c'est ça également le défaut. Nous ne savons aujourd'hui, Internet, c'est vraiment...
Et surtout que les pays, au niveau du gouvernement, on dispose d'un ministère de l'économie numérique.
Déjà là, je disais encore une fois, il faut une éducation. Nous parlons de l'économie numérique, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous remarquerez que le taux de commerce électronique n'évolue pas? C'est un cours que, lorsque j'étais chef de département à l'université de Kinshasa, j'ai motivé pour que ce cours soit intégré dans le programme. Il était, bien sûr, dans le programme de ceux qui faisaient la maîtrise, mais aujourd'hui, le commerce électronique est carrément adopté dans beaucoup d'universités. Il est enseigné et j'assure ce cours. Mais pour beaucoup, c'est du nouveau. Pour beaucoup, c'est du nouveau. Je fais exprès, moi, par exemple, quand j'enseigne le cours de commerce électronique, pour assurer, même si je suis là en présentiel, mais nous devons avoir quelques séances à distance. C'est justement pour leur aider à se familiariser
justement,
avec ces
en parlant
outils.
De l'économie numérique, il y a un phénomène qui a pris de l'ampleur. La vente en ligne, c'est devenu, je vais dire, monnaie courante. C'est devenu toute une seconde vie. Vous allez voir, chaque jeune fille, ou 8 jeunes filles sur 10, vendent en ligne.
Je suis content que ça s'améliore parce que je me rappelle, il y a 6-7 années, lorsque je parlais de cela, que ça paraissait...
Savant.
Je me rappelle pour la première fois, c'était à SMK, nous avons même fait un test avec les étudiants, nous avons commandé du possé. Nous avons commandé en ligne, en plein cours, pour leur montrer que ça existait. Parce qu'ils disaient, non, ça c'est pour acheter simplement à l'étranger.
J'ai dit,
non, vous n'avez pas l'information. Aujourd'hui, nous avons également des plateformes de marché ici, animées par les Congolais localement. Nous avons essayé, nous avons acheté les possés, nous nous sommes fait livrer, et pendant la pause... quelques étudiantes et nous avons partagé ce repas. Moi qui vous parle.
Vous avez apprécié par exemple.
Hier, tout ce que j'ai mangé, j'ai reçu des invités à la maison, mais nous avons été nourris par tout ce qui a été commandé en ligne. Le N'Golo Brésil.
C'est fantastique.
Et notre livraison a été. Mais effectivement, c'est ça. Il y a un bénéfice. Regardez les pays comme la Chine.
Ah.
Au moment du Covid, nous avons vu beaucoup d'économies.
Des Gangolais.
Mais pourquoi ça n'a pas ? Parce qu'en fait, l'économie, c'est quoi ? C'est une suite de transactions, c'est un ensemble de transactions. Et de leur côté, pour avoir bénéficié justement des activités en ligne, les choses n'ont pas, les transactions ont continué. Et c'est, ça a même donné lieu aujourd'hui à le robot livreur. Vous allez dans tous les hôtels en Chine, vous trouverez le robot livreur. Lui qui
et même livre, dans beaucoup de restaurants.
Même dans beaucoup de.
Mais quand même, les robots livreurs, on va dire plus ou moins, ils sont un peu liés au taux de chômage.
Non, c'est ça encore le problème, monsieur Jean-Marc. En fait, le numérique ne vient pas tuer l'emploi. Il crée des emplois. Il crée des spécialités. Parce que justement, c'est des nouveaux emplois qui doivent se créer. Nous devons apprendre justement, c'est un peu comme disait le scientifique Albert, si je ne me trompe pas, Sauvy, le nom. En fait, on a l'impression que ça tue, mais ça vous donne l'opportunité pour apprendre autre chose.
Ça crée de nouvelles initiatives.
Ça crée de nouvelles initiatives. Vous avez aujourd'hui un emploi, créateur de contenu.
Oui.
Créateur de contenu. Cela arrive à créer du contenu journalier.
Et ça marche.
Vous avez analyse des données. Aujourd'hui, vous avez des données, on parle du web analytique et tout. C'est des métiers qui sont créés aujourd'hui. Toutes les données récoltées à travers le NOT, le net, un analyste va synthétiser et faire parler les chiffres et vous donner des recommandations. Vous avez des développeurs. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement. Vous avez ceux qui vous aident à créer, comme vous l'avez dit pour votre vente électronique, à créer des pages, à créer des plateformes. Encore maintenant, il faudrait que nous puissions booster vraiment le secteur financier pour qu'il y ait des agrégateurs qui nous permettent d'organiser le paiement en ligne. C'est ce vers les initiatives, les réformes que nous sommes en train d'initier avec, bien sûr, je ne manquerai pas de lui faire un petit coucou, le gouverneur de la Banque Centrale. C'est dans le cadre de cette digitalisation que vous voyez que tous les secteurs sont englobés. Parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder les chiffres. Nous qui sommes enseignants, et j'en appelle à mes collègues, si vous regardez l'étude des chiffres, disons, on peut prendre depuis 80, ou disons la période charnière qui est 2000-2001, comment notre PIB a commencé à croître, le revenu par habitant multiplié presque par 6, de 146 dollars à 700 quelque chose. Mais vous allez remarquer, malgré cela, vous avez un rapport de crédit sur PIB ou de dépôt sur PIB bancaire, je parle des dépôts, très faible. Ça veut dire quoi ? Malgré la création de la richesse notre économie connaît, cela n'est pas capté parce que la plupart des activités se fait en cash. Et vous allez remarquer que voilà pourquoi tout le monde dit le vécu quotidien. Non, il n'y a pas de changement. Parce que justement, il faudrait recadrer, n'est-ce pas, tous ces flux-là vers un circuit formel. Et la digitalisation va nous permettre de l'atteindre, n'est-ce pas ? La digitalisation va nous permettre de contrôler cela parce que même si vous n'avez pas un compte bancaire, mais du moment où vous arrivez à utiliser les transactions via les fintechs, via tout ce qui est mobile money, en fait, tout devient traçable. n'est-ce pas? On arrive
à vous dire. Au moins, il y a un suivi.
Il y a un suivi et tout cela peut être cadré par l'économie et petit à petit, on va vous orienter vers le secteur formel, le secteur bancaire. Et c'est comme ça que fonctionne un pays et l'économie va.
On doit dire que le numérique est un impératif et l'enseignement à l'ère numérique doit être formalisé.
L'enseignement à l'ère du numérique doit être formalisé, monsieur Jean-Marc. Je pense que c'est un impératif. Nous sommes aujourd'hui dans un monde totalement connecté et nous devons changer de méthode. Déjà, le numérique modifie la manière dont nous travaillons. Nous nous réveillons, je pense que le premier outil que nous touchons, c'est notre téléphone. Mmh. Si nous arrivons à rapporter cette connaissance aux étudiants dans l'outil qu'ils utilisent régulièrement, nous allons élever le taux de connaissance et nous allons former des personnes aptes, n'est-ce pas, à ramener ce pays vers l'avant.
Donc ceux qui hésitent doivent se réveiller, ils doivent se mettre au pas.
Non seulement ils doivent se réveiller, mais je leur adresse un appel solennel pour dire que vous serez considérés comme des analphabètes dans très peu de temps. Je pense que 2 ans, c'est même trop.
Parce qu'on a même vu, au niveau des entreprises, il y a l'inspection générale des finances qui a initié les systèmes de contrôle systémique.
De contrôle systémique.
Dans lesquels les numériques jouent un rôle prépondérant.
Nous pouvons, vous savez.
Et même au niveau de la Banque centrale du Congo, on sent que les numériques a pris de la place et ça facilite beaucoup de choses.
Vous savez, monsieur Jean-Marc, on peut lutter. C'est naturel. On peut résister. Mais à un certain moment, on sera bloqué. Moi, je l'ai vécu. Lorsque je vivais encore à l'extérieur, à un certain moment, tout ce qui est paiement électronique, je trouvais, bon non, ce sont des arnaques, je ne vais pas le faire. Mais le jour où je me suis vu coincé dans un parking parce que je ne savais pas sortir, parce que le paiement devait se faire via le téléphone électronique. Et j'ai passé 30 minutes en cherchant qui allait m'aider à payer.
Oh là là.
J'ai vu un travailleur, un domestique sortir, jeter la poubelle. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez la monnaie? Il dit oui, oui. J'ai dit, aidez-moi à payer mes frais de parking et je vous donne un pourboire. Et ce jour-là, je suis rentré, je me suis mis
et surtout là-bas, que c'est des parkings électroniques
électronique.
Pour mettre une carte à puce et tout le reste.
Électronique. Donc, les enseignants, nous avons la possibilité d'aider, de former nos jeunes. Et puisque nous ne savons pas être présents à tout moment devant eux, mais nous savons les atteindre dans leur chambre, dans leur toilette, dans leur vestiaire, dans leur salon, à travers le numérique. Et ça fera plaisir, n'est-ce pas, qu'un étudiant qui prend sa douche, au lieu de suivre toutes ces émissions-là, de fois, quand je regarde qui est en train de rendre toute une génération beaucoup pleine de perversité, ça sera content qu'un étudiant qui prend sa douche, mais en train de suivre votre cours. Et ça rentre facilement. Vous êtes sûr au moins que vous avez touché son cerveau.
Voilà. Professeur Jody Ngongongoy, professeur ordinaire, et vous enseignez dans plusieurs universités. Vous êtes aussi l'auteur d'un prestigieux et pédagogique ouvrage qui s'intitule le Manuel d'analyse financière, ouvrage qui a été préfacé par les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, André Wameso. Et comme je l'ai dit, vous êtes parmi les révolutionnaires du numérique dans notre pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je fais un clin d'œil à Richie Somba qui nous accompagne.
Prochainement, on parlera plus davantage de ce manuel, n'est-ce pas, qui a été vraiment
avec plaisir,
de manière pédagogique, conçu pour aider chacun d'entre nous, non simplement, pas simplement les étudiants en économie ou en commerce, mais tout celui qui est désireux d'accroître sa connaissance en analyse financière, de finalement d'apprendre les ABC et tous les éléments nécessaires pour le faire.
En tout cas, tout le plaisir est pour nous de vous avoir reçu. Professeur, merci. Vous êtes chez vous à tout moment.
Merci beaucoup.
On promet déjà aux auditeurs qu'on parlera de l'ouvrage Manuel d'analyse financière.
Merci beaucoup Jean-Marc, c'est moi qui vous remercie. C'est de cette façon que via le numérique, vous arriviez, n'est-ce pas, à nous donner l'information au bon moment et partout.
Merci.